Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europe 1.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans les carnets du monde. Comme chaque dimanche jusqu'à 14h, on va tendre le micro européen un peu partout sur la planète et écouter comment on vit ailleurs, avec ce virus évidemment qui empoisonne la vie partout. Est-ce que certains pays arrivent mieux que d'autres à faire face et si oui, comment? Je vous emmènerai dans trois pays d'Europe. La Suède, qui a vraiment adopté une stratégie à part, mais qu'on connaît mal finalement, on y sera. La Finlande, qui est le meilleur élève de l'Europe, comment font-ils? Enfin, la Slovaquie, qui a choisi début novembre de tester en masse sa population pour essayer de bloquer le virus. Vous l'entendrez, c'est intéressant d'évaluer la part du facteur culturel dans les stratégies adoptées. Nous irons aussi en Chine, confrontée à une tendance démographique qui inquiète Pékin. Malgré la fin de la politique de l'enfant unique, les Chinois ne font pas assez de bébés, notamment parce que trop de jeunes décident d'aller à l'encontre des traditions et restent célibataires. On va vous raconter tout ça. Et puis nous appellerons Lina Alatloul, elle se bat pour qu'on n'oublie pas sa sœur Lou Jane et tous les prisonniers d'opinion qui croupissent dans les geôles d'Arabie Saoudite sans procès ni même chef d'inculpation. Lou Jane Alatloul, c'est l'une de ces jeunes saoudiennes qui a milité pour le droit des femmes à conduire dans le royaume. Enfin, on découvrira le dernier album de la Tunisienne Emel, de la douceur et une voix cristalline. Et avec Joseph Chovanec ce dimanche, l'Autistan, c'est un pays plat. Les carnets sont ouverts, première destination, la Suède.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Quelle stratégie adopter face à ce virus qui est entré dans nos vies au printemps dernier et avec lequel on va encore passer quelques mois, voire quelques années? Les réponses sont diverses dans le monde et même en Europe. Et c'est dans un pays qui s'est singularisé en Europe qu'on commence cette exploration. La Suède a fait bande à part. On a beaucoup dit qu'elle avait laissé filer le virus, pariant sur l'immunité collective qu'allait acquérir la population. Pour quelle efficacité? On a entendu un peu tout et son contraire. Alors on prend le temps aujourd'hui dans les carnets de regarder de près cette stratégie très spécifique choisie par les Suédois. Bonjour Johanna Chabas.
Bonjour Sophie.
Vous rentrez de Stockholm où vous êtes allée enquêter dans ce pays qui n'a jamais été confiné, ni au printemps ni cet automne, et où on ne porte pas de masque. Pas d'interdiction donc, mais pour autant il est faux de dire qu'aucune mesure n'a été prise et que chacun fait ce qu'il veut.
Et non, pas du tout. Comme partout dans le monde, les autorités ont voulu favoriser la distanciation sociale. Pendant la première vague, il y avait même quelques mesures de prise. Les collèges, les lycées et les universités faisaient cours à distance. Ouais. Rapidement, les maisons de retraite ont interdit les visites. Les rassemblements publics ont été limités un temps à 50 ou 300 personnes selon les cas. Et là, cette semaine, le gouvernement a annoncé un durcissement des mesures. À partir de mardi, la jauge passe à 8 personnes.
Ouais, annulez tout, a dit le Premier ministre suédois. Mais tout ça sans contrainte. Alors, il faut que vous nous expliquiez. C'est ce qu'on appelle là-bas des recommandations. Comment ça marche?
Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suède, les libertés individuelles sont très protégées. La liberté de circulation est garantie par la Constitution. Donc, en fait, le gouvernement n'a pas le pouvoir législatif d'imposer beaucoup de choses, beaucoup d'interdictions. Confiner la population, par exemple, ce n'est faisable qu'en temps de guerre.
Donc, pas d'état d'urgence, quoi.
Non, du tout. Ouais. Et donc, le gouvernement a fait ce qu'il appelle des recommandations. Donc, comme télétravailler le plus possible, ne sortir que pour des courses de première nécessité, ne plus faire la fête, ne plus aller à la salle de sport. Si ça vous dit quelque chose, c'est normal. Vous le voyez bien, ça ressemble beaucoup à un confinement. Mais par contre, c'est vrai qu'il n'y a aucune sanction si les Suédois ne suivent pas ces recommandations.
Ouais, même si d'une certaine manière, elles ont une valeur contraignante, ces recommandations. En tout cas, les Suédois respectent scrupuleusement les demandes de leur gouvernement. C'est aussi une question de culture. Et vous avez pu le constater, Johanna, à Stockholm, au contact des Suédois. On écoute votre reportage, on se retrouve juste après.
C'est frappant, dès l'arrivée à Stockholm, on dirait une vie sans virus. Des familles en balade dans les rues sinueuses du centre-ville, sans masque. Tous les commerces ouverts, du supermarché à la boutique de souvenirs. Les restaurants et les bars avec des clients en terrasse et à l'intérieur. J'ai l'impression de revoir des scènes que je n'ai pas vues depuis des mois. Devant un pub, plusieurs jeunes comme Martin sont debout, bière à la main.
On essaye de faire attention, mais on est aussi des êtres humains. On a besoin d'être sociable aussi. Je pense que c'est important pour tout le monde. Et donc, tant qu'on peut le faire en faisant attention, il faut toujours profiter de la vie. Parce que oui, c'est cliché, mais la vie reste la vie.
Mais en y regardant de plus près, le coronavirus a bel et bien changé les choses. Les salles de restaurants sont loin d'être pleines. Les Suédois marchent dans les rues pavées, s'arrêtent devant les vitrines, mais ne rentrent pas dans les magasins. Herman vend des sacs. Dans les allées de sa boutique, aucun client.
Le nombre de personnes qui sortent faire du shopping a baissé de façon dramatique récemment à cause des recommandations. La quantité de clients et d'argent qui rentrent ici a comme chuté d'une falaise depuis quelques semaines. En général, les Suédois prennent ça sérieusement, même si on n'a pas de règles ou de restrictions strictes. La plupart des personnes essaient de respecter les consignes.
Plus haut dans la rue, Marie tient un restaurant réputé de la capitale. On y mange des spécialités suédoises. Elle peut ouvrir sa toute petite salle, mais avec de nombreuses restrictions. Et depuis deux jours, elle doit même fermer après 22 heures.
C'est si fatigant. On doit avoir un mètre entre les tables. On ne peut pas avoir des groupes de plus de 8 personnes en même temps à la même table. Beaucoup de Suédois ne vont plus vraiment au restaurant ces temps-ci. On a perdu 90% de notre clientèle. On a dû se séparer de tous nos salariés. Et maintenant, il n'y a plus que moi, mon mari, mes deux filles qui travaillons ici, alors qu'avant, on était 14 dans l'équipe.
Les Suédois se privent de ces petits plaisirs du quotidien pour respecter les recommandations, mais changent aussi radicalement leur mode de vie. Je retrouve Tove dans son appartement en centre-ville. Cette mère de famille a vécu en France. Maintenant, elle travaille à Stockholm pour un syndicat qui a décidé d'imposer le télétravail à tous ses salariés.
Ça fait plus de 9 mois que je travaille à la maison, sans le droit d'entrer au lieu de travail. Enfin, je sors, je vais au magasin, je vais acheter des vivres, de la nourriture, et je vais aussi au gym. Enfin, j'invite pas vraiment des gens à la maison, puisqu'ils ont peur. Mais c'est triste, quoi. Je suis seule avec mes 3 enfants, et je manque le contact avec d'autres adultes.
Elle a l'impression de vivre un auto-confinement, mais pourquoi se l'imposer ? Sa fille au père, Lovisa, une franco-suédoise qui suit des cours de psychologie à distance, explique que ça fait partie de la culture suédoise.
Je pense que c'est une grande différence par rapport à la mentalité en France et en Suède, que les Suédois, dans plus de cas, les gens ils respectent les restrictions, ils respectent les politiciens. Par exemple, en France, juste avant que vous ayez été enfermés, les gens ils voulaient tous faire la fête et tout ça, mais ici, on respecte que les politiciens ils ont fait des choix et des décisions pour nous protéger.
Selon les deux femmes qui passent maintenant quasiment tout leur temps ensemble, il y a une autre raison pour laquelle les Suédois respectent les recommandations. Ils subissent une réelle pression du groupe, de la communauté. Il ne faut pas se faire remarquer et il y a même un mot suédois pour ça, lagom.
Ça revient dans plusieurs domaines de la vie suédoise. Tout le monde doit penser la même chose, tout le monde doit s'habiller pareil. Et il ne faut pas différer de la majorité.
D'après Tove, il est impossible pour elle de critiquer les recommandations du gouvernement sur ses réseaux sociaux. Elle a essayé, elle s'est pris une vague de reproches. Depuis, elle s'abstient et espère en silence que les mesures s'allègent le plus rapidement possible. Stockholm, Johanna Chabas, Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1 et on est toujours avec vous, Johanna. Vous êtes rentrée en France. En écoutant votre reportage, c'est étonnant. Tove, par exemple, cette Suédoise avec ses enfants et sa fille au père, on a l'impression qu'elle est confinée au moins autant que nous ici en France.
Oui, à une différence près, l'acceptation des contraintes. Il y a évidemment des personnes qui ne respectent pas, mais la majorité le fait. Et à chaque fois que je demandais comment c'était possible, eh bien c'était toujours la même réponse. On sait que ce sont des recommandations données pour notre bien, donc on respecte. Il faut savoir qu'en Suède, c'est l'agence de santé publique qui décide de la démarche à suivre pour combattre le coronavirus. Les gouvernants suivent toutes leurs recommandations et selon un récent sondage, 70% de la population lui fait confiance.
Ce sont les médecins, par exemple, de cette agence de santé publique qui ne préconisent pas le port du masque, contrairement à la plupart de leurs collègues européens.
Exactement, le masque est extrêmement mal vu parce que ces médecins disent que porter un masque procure un sentiment de fausse sécurité. Qu'en en portant, une personne se sent invincible. Elle va donc oublier les autres gestes barrières, notamment la distanciation. Et puis surtout, ils mettent en avant le fait que peu de personnes en fait, savent mettre correctement un masque, donc il vaut mieux ne pas le mettre du tout. Et donc, il y a un vrai respect de la hiérarchie. Des spécialistes, Tove, qu'on a entendu à la fin du reportage, disait que les Suédois ne sont pas des révolutionnaires comme les Français, qu'ils ne manifestent pas, qu'ils écoutent. Elle aurait personnellement voulu plus de débats, mais pour elle, ce consensus permet à son pays de s'en sortir mieux que les autres.
Alors justement, parlons du bilan provisoire, mais quand même, est-ce que cette stratégie donne vraiment de meilleurs résultats qu'ailleurs? Parce que je disais tout à l'heure, on a entendu tout et son contraire.
Sûrement parce que ça n'est ni blanc ni noir. La Suède en est à plus de 6000 morts pour un pays de 10 millions d'habitants, ce n'est pas rien.
Ouais.
Et en tout cas, la Suède connaît une hausse spectaculaire du nombre de cas de coronavirus. Ces dernières semaines, je suis allée dans un hôpital d'Uppsala au nord de Stockholm. Et là, pour le coup, je n'étais plus dépaysée du tout par rapport à ce qu'il se passe ici en France. Le service d'infectiologie est plein à craquer de patients Covid. 70 malades, 10 en soins intensifs. Le chef de service, Frédéric Sund, a bien vu une deuxième vague arriver.
En octobre, il y a eu une augmentation dramatique. Toutes les deux semaines, on doublait le nombre de patients. Tous les lits sont toujours pris, donc on a dû trouver de la place ailleurs. J'ai peur de ce qui peut arriver. Car ce n'est pas pire en nombre de cas, mais c'est pire à vivre, car le personnel est beaucoup plus fatigué maintenant. On ne pourra pas tenir aussi longtemps qu'on l'a fait en mars, avril ou mai.
Ouais, donc grosse tension à l'hôpital en Suède aussi. Ces derniers temps, le taux de mortalité là-bas oscille sensiblement au même niveau que le taux français. Hein.
Oui, à la 16e place dans le monde, et c'est pas évident d'établir si la Suède s'en sort mieux que les autres. Les données sont interprétées différemment, évidemment, selon les camps. Les critiques du modèle suédois disent que c'est beaucoup trop élevé, qu'il faut plus de restrictions. Un groupe d'une trentaine de scientifiques dénonce depuis des mois la stratégie du gouvernement, demande à ce que les Suédois portent des masques, qu'un confinement soit décrété. À l'inverse, les partisans du modèle disent qu'avec moins d'interdictions que la plupart des pays européens, la Suède s'en sort de la même manière, mais elle, en protégeant son économie.
Alors, justement, autre question importante du bilan, comment se porte l'économie suédoise? Est-ce que le pari de faire moins de dégâts que d'en faire un confinement a vraiment fonctionné?
Alors, les commerçants et les restaurateurs que j'ai rencontrés me disent plutôt que non. Vous l'avez entendu dans le reportage, ils ont perdu beaucoup de clients du fait, justement, des recommandations. Puis, il ne faut pas oublier qu'il n'y avait plus de tourisme, plus d'export, dont dépend énormément l'économie suédoise. Donc, elle en a pris un coup. Pendant la première vague au printemps, l'économie suédoise s'est contractée de 8,6%. Mais ça reste mieux que la moyenne européenne et que beaucoup de ses voisins. La France, par exemple, c'est de 13,8%, 5 points de plus. Il faut dire que le télétravail est beaucoup plus répandu en Suède. Donc plus facile à généraliser, comme ça a été le cas pour l'entreprise de Tove, justement dans le reportage.
Ouais, ça s'est fait plus naturellement. Il y a un aspect de la crise sanitaire qui fait débat tout de même en Suède, Johanna, c'est la manière dont les personnes âgées ont été prises en charge dans les maisons de retraite.
Oui, ou même pas prises en charge du tout. Il y a eu de nombreux scandales, des histoires de personnes âgées pas soignées, à qui on a simplement donné une dose de morphine. Près de la moitié des morts du Covid en Suède étaient en maison de retraite. Alors les syndicats avancent deux hypothèses pour cette défaillance. Les résidents sont souvent très âgés et fragiles. Leur espérance de vie est d'environ 3 ans quand ils rentrent dans leur maison de retraite. Et puis surtout, les soignants travaillent à l'heure ou à la journée dans une grande précarité et certains, ne voulant pas perdre une journée de travail, se sont rendus au travail malgré des symptômes de Covid. En tout cas, une commission d'enquête doit éclaircir les raisons de cette hécatombe dans les maisons de retraite suédoises. Son rapport est attendu le 15 décembre.
Voilà, bilan en demi-teinte, donc ni bon ni mauvais. Merci Johanna pour ce tableau tout en nuances. On peut se demander si culturellement, nous Français, on serait capable de suivre aussi bien des recommandations. Question que chacun peut se poser, mais on ne va pas y répondre maintenant. À bientôt Johanna.
À bientôt.
Merci encore. On va aller observer la stratégie de deux autres pays face à la pandémie, celle du voisin finlandais et celle de la Slovaquie. On s'y retrouve après une courte pause.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Est-ce qu'il existe de bonnes recettes pour lutter contre le coronavirus suite de ce petit dossier pour observer les stratégies adoptées dans certains pays et qui pourraient peut-être nous inspirer? On en évoque encore deux dans les carnets. D'abord celle de la championne d'Europe, c'est la Finlande, avec moins de 400 morts en tout et un taux d'infection 5 fois inférieur à la moyenne européenne. Ce grand pays nordique semble également mieux maîtriser la seconde vague de cet automne. Pour comprendre les raisons de ce succès, j'ai appelé un ancien journaliste correspondant à Helsinki, Alexis Yamajako, qui explique que, d'abord, les autorités ont réagi très vite.
Les premiers cas ont été découverts en Chine fin décembre. Le premier cas finlandais, ça a été fin janvier. Et dès la découverte de ce cas dans le nord de la Finlande, c'était une ressortissante chinoise venant justement de la région de Wuhan. Mais les autorités sont intervenues tout de suite et ont pris des mesures très strictes. On fait tester tous ceux qui entraient dans le pays, ce qui a permis de découvrir les premiers cas de Finlandais venant d'Italie. Et ensuite, un hôpital mobile a été installé. dans les sous-sols du plus grand centre commercial d'Helsinki pour soigner uniquement les malades du Covid, ce qui a permis en fait aux autres hôpitaux de conserver leurs lits pour les maladies habituelles.
Avec beaucoup de tests et de traçage très, très rapidement mis en place, avec une application aussi qui a été extrêmement téléchargée par la population.
Tout à fait. 2,5 millions de personnes ont déjà téléchargé cette application dans un pays qui compte 5 millions d'habitants. Donc la moitié des Finlandais ont déjà cette application. Ce qui explique aussi le succès de cette application, c'est que les codes sources de l'application, donc les moyens techniques utilisés, ont été publiés plusieurs semaines avant la mise en circulation de l'application. Et ce qui a permis aux Finlandais de constater que cette application ne permettait pas de les suivre, donc de repérer l'endroit où ils se trouvaient, et aussi de montrer que c'était anonyme. Et je pense que ça a contribué au succès de l'application, qui a aussi contribué à réduire les taux de contamination.
Dans la loi finlandaise aussi, je crois qu'il y avait un très bon état de préparation. La possible pandémie était anticipée dans la loi.
Tout à fait. C'est-à-dire que quand on connaît un peu l'histoire finlandaise, on se rend compte que c'est un pays depuis la Seconde Guerre mondiale qui est certes en paix, mais les Finlandais ont toujours un service militaire. Les Finlandais se préparent à une éventuelle pandémie ou même à une crise militaire. Et donc, il y a régulièrement des entraînements pour des situations d'urgence. Et parmi ces situations d'urgence, il y a notamment les pandémies. Donc, les citoyens sont restés très calmes et ont appliqué à la lettre ce que disent leurs dirigeants, qui sont d'autre part très populaires.
Autre facteur, Alexis Yamajako, le télétravail, c'est quelque chose qui est déjà très répandu en Finlande. Donc, ça a été très facile de l'augmenter.
Tout à fait. La Finlande est, comme chacun sait, le pays de Nokia, qui fut dans les années 90 le premier exportateur de téléphones portables. Et donc, pour tout ce qui concerne les nouvelles techniques de communication, la Finlande est très avancée. Par exemple, la plupart des Finlandais n'ont pas de modem chez eux. C'est leur téléphone qui leur sert de modem. Et ils ont des communications très stables. Avec ça, donc, le télétravail n'est rien de nouveau. Il est très courant de travailler 2 ou 3 jours par semaine à l'extérieur. Autre détail que je voudrais ajouter, c'est qu'après les premières semaines de semi-confinement au mois de mars, le gouvernement finlandais a autorisé les Finlandais à aller s'installer dans leur maison de campagne. Ça s'appelle des mökki, c'est un peu les dacha à la mode finlandaise. Et donc, la plupart des Finlandais sont allés dans leur maison de campagne et travaillés depuis la campagne, ce qui a réduit la densité de population dans les villes et permis la distanciation sociale.
Alors, cette distanciation sociale, parlons-en un tout petit peu. Ils ne se forcent pas beaucoup, les Finlandais. C'est un peu dans leur gène.
Ah oui, pour les Finlandais, se faire la bise, déjà, c'est violer l'espace personnel de la personne à qui on fait la bise. Donc les Finlandais, en général, gardent leur distance. Il y a une vanne qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux finlandais pendant la crise. C'est les Finlandais qui se demandent quand est-ce que la distanciation sociale s'arrêterait pour qu'on puisse retourner aux 5 mètres de distance réglementaire par rapport aux voisins. Et c'est très courant dans les arrêts de bus finlandais, par exemple. J'ai toujours trouvé très drôle de voir les gens debout à l'arrêt de bus comme s'ils faisaient la queue, mais à 1,5 mètre les uns des autres. Et ça, c'était avant le Covid.
Si je vous entends bien, ça aurait été extrêmement compliqué d'imaginer les mêmes éléments de réussite, les mêmes facteurs de réussite dans un pays latin comme la France, par exemple.
Oui, je pense. Vous savez, les Finlandais ont tendance à faire ce que disent leur gouvernement. Donc, ils obéissent à la loi. Et ensuite, ils sont très flexibles et donc ils changent leurs habitudes très rapidement, ce qui n'est pas le cas en France. Et donc, c'est un pays où on a tendance à ne pas imposer des choses de haut. En général, on écoute d'abord les gens avant de prendre la décision. C'est pour ça qu'il y a, par exemple, très peu de mouvements sociaux en Finlande. Ils font rarement grève parce qu'ils disent on a négocié avant et on s'est mis d'accord. Et je pense que ces aspects culturels ne sont pas à négliger quand on parle aussi du Covid, parce qu'ils ont un impact sur la façon dont aussi bien les gouvernements que la population réagit à la situation.
Voilà l'impact indéniable des facteurs culturels. Intéressant à méditer, c'était Alexis Yamajako, je vous le rappelle, un ancien correspondant en Finlande. Dernier pays où l'on fait étape, la Slovaquie, 5,5 millions d'habitants comme en Finlande. Et vous en revenez de la Slovaquie, Jean-Jacques Héry, bonjour.
Bonjour Sophie.
Alors là-bas, pour éviter un confinement comme ici, les autorités ont décidé de tester tout le monde. Expliquez-nous comment ça s'est passé.
Bien, le premier week-end de novembre, on a vu des tentes médicales pousser un peu partout dans le pays. Des écoles, des salles municipales étaient réquisitionnées. En tout, il y avait 5000 centres de tests dans toute la Slovaquie. Mm-hmm. Puis de 7h à 22h, on testait sans arrêter. Pour encadrer les opérations, il y avait 50 000 personnes mobilisées. C'était énorme. Et c'est comme ça qu'environ les deux tiers de la population ont pu être testés. Le week-end d'après, on a recommencé, on a refait des tests massifs dans les zones les plus touchées pour affiner les choses.
Et qu'est-ce qui se passait selon qu'on était testé positif ou négatif ?
Bien, si vous étiez testé positif, c'était quarantaine obligatoire, 10 jours d'office à la maison. Ouais. Même chose pour ceux qui refusaient les tests. Mmh. Et pour les négatifs, ben, vous receviez un papier bleu, une sorte de certificat, un sésame, qui vous permettait de sortir dans la rue et qu'il fallait présenter à la police en cas de contrôle.
Alors, conséquence directe de cette stratégie, on pouvait presque considérer que tous ceux qui étaient dans la rue avaient le fameux papier bleu et étaient négatifs.
Ouais, c'était l'idée, hein, écarter absolument le danger de contagion. Et le premier défi, c'était d'abord de convaincre les gens d'aller se faire tester. Mmh. Pour ça, il y avait la carotte et puis il y avait le bâton. Alors le bâton, c'était une énorme amende de 1 650 € pour ceux qui n'avaient pas le fameux papier bleu. Et la carotte, ben, c'était la promesse d'une liberté un peu retrouvée, qui permettait par exemple d'aller travailler, de boire un café en terrasse ou d'aller faire du shopping. D'ailleurs, j'ai rencontré Barbara dans un centre commercial de Bratislava où tous les magasins étaient ouverts.
Notre gouvernement a pris des mesures très tôt. Il s'est inspiré de pays comme Singapour où elles fonctionnaient déjà. Je pense à l'obligation de porter des masques dès le début, au nombre limité de personnes dans les magasins. Et il y a des tests pour tout le monde aussi maintenant. J'espère que l'on va pouvoir servir d'exemple aux autres pays et que ça va continuer comme ça ici en Slovaquie avec progressivement un peu plus de liberté.
Alors on sait, Jean-Jacques, que l'Autriche a l'intention de s'inspirer de la Slovaquie et de tester massivement sa population à son tour. Le but, c'est d'abréger ou d'alléger le confinement et de permettre au pays de redémarrer. Mais est-ce qu'on sait si ça marche vraiment ?
En fait, on ne sait pas encore. Tout ça reste très théorique, hein, même si sur le papier, ça ressemble à un rêve de statisticien. Mmh. Mais il y a quand même des faiblesses dans le dispositif. La première tient notamment à la nature des tests. J'en parlais avec une épidémiologiste, Alexa Brazinova. Elle travaille à l'université Comenius de Bratislava.
On a utilisé des tests antigéniques qui ne sont pas aussi précis que des tests PCR. Peut-être que des gens qui ont été testés négatifs sont en fait malades, mais le test ne l'a pas montré et ça c'est un danger. Pour que cela fonctionne mieux, il faut répéter les tests antigéniques, peut-être deux fois, voire plus. On devrait voir bientôt s'il y a des effets, puisque ça prend au moins deux semaines avant de voir s'il y a vraiment un effet sur le nombre de nouveaux cas, le nombre d'hospitalisations et le nombre de morts.
Elle nuance, hein, l'épidémiologiste.
Oui, mais elle estime quand même que ces tests massifs sont un bon outil, simplement... Pour compenser la moindre fiabilité des antigéniques, il faudrait répéter les tests. Mmh. L'idée, c'est de cibler notamment les zones où on a trouvé le plus de cas. Et c'est d'ailleurs le cas ce week-end avec des nouveaux tests dans 458 communes du pays. Et puis on parle aussi d'une nouvelle série de tests nationaux cette fois, qui pourrait avoir lieu avant Noël. Mais en soi, ben, ça ne va pas suffire. Il faudra aussi imposer des tests à l'entrée aux frontières, puisque si on nettoie l'intérieur du pays, il ne faut pas que le virus revienne. Et puis il faudra aussi poursuivre le port du masque obligatoire, la distanciation sociale et le lavage régulier des mains.
Est-ce que cette campagne massive de tests, quasi obligatoire, on l'a compris, hein, sauf à devoir s'imposer 10 jours de quarantaine, est-ce que ça a été bien accepté et compris des Slovaques ?
Mais il y avait pas mal de réticences au départ. Certains parlaient même de chantage. Et puis... Tout le monde a fini par réaliser que ça avait aussi des conséquences positives assez rapidement dans leur quotidien et notamment pour le redémarrage de l'économie. Exemple avec Jean-Marie, coiffeur français installé à Bratislava.
Sans ces tests-là, on n'aurait jamais pu réouvrir il y a déjà deux semaines. Suite à ça, les clientes qui viennent depuis cette réouverture sont tout à fait détendues. Elles ont eu leurs tests, elles savent que nous aussi on a été testés. Et sincèrement, ça m'a ouvert les yeux. Je demande à mon équipe et pour nous aussi d'avoir des tests tous les 15 jours. Parce qu'on voit quand même beaucoup de monde.
Voilà, et l'ambition annoncée du Premier ministre slovaque, c'est de parvenir peut-être à une réouverture des restaurants à la fin du mois. Bon, pas grand monde n'y croit là-bas, et les écoles, elles, en tout cas, on sait qu'elles ne rouvriront pas leurs portes avant la nouvelle année.
Stratégie très intéressante, en tout cas, même si, évidemment, organiser une campagne de tests massifs ne représente pas le même défi dans un pays de 5,5 millions d'habitants, la Slovaquie, et dans un pays comme la France, à près de 70 millions d'habitants. Merci beaucoup, Jean-Jacques.
Merci
à bientôt
beaucoup à vous.
Dans les carnets. Et c'est avec vous que l'on clôt ce dossier sur quelques-unes des stratégies adoptées par des gouvernants face au vilain virus. À suivre, de la musique douce, envoûtante et aux couleurs de la Tunisie. Angèle Châtelier nous rejoint dans un instant.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Et voilà la petite pause culturelle qu'on fait toujours à mi-parcours des carnets, histoire de découvrir le monde autrement, à travers les regards d'artistes et parfois à travers leur voix. Place à la musique aujourd'hui. Bonjour Angèle Châtelier.
Bonjour Sophie.
Vous nous embarquez avec vous à Tunis avec la chanteuse Emel, qui était l'une des égéries de la révolution de Jasmin, la première des révolutions arabes, fin 2010, début 2011.
Cette chanson, Kelmti Aura, ma parole est libre, a été un hymne du printemps arabe tunisien et Emel, son égérie musicale. En 2015, Emel est invité à chanter lors de la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix. À l'époque, il est décerné au quartet du Dialogue National Tunisien qui ont participé à l'aboutissement d'élections présidentielles et législatives dans le pays. Et sa ville de Tunis, Emel se la remémore alors qu'elle est confinée en Égypte.
La chose qui me revient le plus dans mes souvenirs, c'est la couleur du ciel et la lumière. Le bleu du ciel, le grand horizon et l'air tellement rafraîchissant. C'est un peu les choses qui m'ont toujours marquée à Tunis.
Ça lui a un peu collé à la peau, hein, à Emel, cette image d'égérie de la révolte.
Oui, d'ailleurs, elle en revient. On a souvent fait un résumé très simpliste de ma musique en m'y associant constamment, dit-elle. Alors elle s'est consolée en musique.
Et elle a sorti il y a quelques semaines un nouvel album, The Tunis Diaries, journal de Tunis.
Oui, dans lequel, sur un premier volume, elle réinterprète certaines de ses chansons qu'elle a chéries. Sur le second, elle reprend des artistes qu'elle affectionne. David Bowie, Nirvana, Leonard Cohen. Un album qui est né pendant le confinement, le premier, avec une guitare, un micro, un enregistreur et c'est tout. Un album pour lequel Emel s'est lancé un défi dans le choix de ses chansons à reprendre comme dans les moments de les interpréter.
J'avais pris la décision d'essayer d'enregistrer deux chansons par jour. Une pendant la journée, pendant l'après-midi, avec la lumière de la terrasse d'où j'enregistrais et le bruit des oiseaux, et une le soir avec les lumières de la ville au loin et les sons des grenouilles et des cigales. La sélection s'est faite petit à petit avec des chansons qui étaient proches à mon cœur, autant des chansons de mon répertoire ou des chansons qui ont marqué mon parcours musical et d'artistes qui m'ont influencé. We passed upon the stairs. Et j'avais tellement pas de moyens et d'équipement que du coup... C'est un peu les chansons qui se sont imposées où je pouvais les ressentir, je pouvais les chanter avec émotion dans le plus simple appareil. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with the
voilà, on a reconnu, hein, The Man Who Sold the World de David Bowie, qui avait été repris par Nirvana aussi.
Oui, et sublimé ici par la voix d'Emel, qui a eu du mal à en accoucher. Quand j'ai entamé la tâche de la reprendre, raconte-t-elle, j'ai atterri dans des profondeurs qui m'ont beaucoup touchée et intéressée artistiquement.
C'est un peu la marque de tout ce nouvel album, non ?
Un album intime, effectivement, fait à la maison avec les moyens du bord, comme elle nous le disait, et c'est ce qui le rend délicieux, calme, douillet et captivant.
Tunis Diaries, journal de Tunis, c'est le tout dernier album d'Emel. Merci beaucoup,
merci,
Angèle.
Merci, Sophie, à bientôt.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
La Chine est en train d'opérer un gigantesque recensement avec le secret espoir de découvrir dans les statistiques plein de nouveaux bébés, car le pays est en train de vivre une véritable révolution démographique, mais à l'inverse de ce qu'il faudrait. Le pays le plus peuplé du monde fait moins d'enfants. Et surtout, une personne sur six vit seule, soit 240 millions de personnes, selon le dernier recensement qui a été effectué en 2018. Dans les grandes villes, de plus en plus de jeunes femmes, en particulier, choisissent de vivre seules, libres, indépendantes. Elles prennent le contre-pied de la tradition chinoise qui veut que l'on se marie avant 30 ans. Sébastien Lebelzik est allé seul, lui aussi, à leur rencontre. Voici son reportage à Pékin.
Un bonnet jaune vissé sur la tête et casque sur les oreilles. Lan Denxing a des airs d'adolescente attardée. Sur son vélo, elle file dans les ruelles sombres des vieux quartiers de Pékin, les Rutong. Elle passe toutes ses soirées dans l'un des bars de Nanlo Guxiang, au milieu des hipsters et des amoureux de cocktails.
Je vais souvent dans les bars autour de chez moi, dans différents bars, parce que dans le quartier, ça change souvent. J'aime bien essayer les différents cocktails, c'est ma grande passion.
Ambiance beaucoup plus calme le lendemain. À l'heure du déjeuner, Lan se rend dans un restaurant pour célibataires. On y mange seul, dans un box fermé, sans aucune interaction, ni avec le personnel, ni avec ses voisins. Avec pour seul compagnon, son téléphone portable.
Ce restaurant n'est pas juste à côté de chez moi, mais je viens quand même souvent ici et je l'ai fait découvrir à mes amis. Tout le monde aime bien cet endroit.
Sun Yun, le patron, est lui aussi célibataire. C'est ce qui lui a donné l'idée de monter ce restaurant, un concept venu du Japon.
On voit de plus en plus de célibataires dans le pays ces dernières années, surtout dans les grandes villes de Chine, Canton, Pékin, Shanghai. Les célibataires travaillent beaucoup et ils ont envie d'avoir une ambiance calme pour déjeuner et se retrouver tranquille, tout seul. On voit ça de plus en plus ici.
Comme Lan, 240 millions de Chinois sont célibataires, un chiffre en constante augmentation. Parmi eux, beaucoup de jeunes femmes qui ont fait le choix de vivre seules, prenant ainsi le contre-pied de la tradition qui veut que l'on se marie avant 30 ans.
La plupart des jeunes aujourd'hui ne veulent pas se marier. Autour de moi, c'est très courant. Mais moi, je ne veux même pas avoir de relation amoureuse du tout. Et ça, c'est encore autre chose. J'ai eu de mauvaises expériences avant, alors je ne veux pas m'engager. Je trouve que la vie avec des amis, c'est beaucoup plus amusant de toute façon. Si tu t'engages dans une relation amoureuse, il faut passer beaucoup de temps avec une seule personne. Ce n'est vraiment pas drôle. Mes parents ne disent rien, mais par contre, je suis retournée récemment dans le Fujian voir ma grand-mère et elle m'a dit que la prochaine fois que je veux aller là-bas sans petite amie, ce n'est pas la peine de venir.
Entre soirée musique et déjeuner en solo, Lan passe ses journées en ne croisant que quelques amies, elles aussi célibataires. Elle ne veut pas d'histoire d'amour, tout comme son amie Li Mengxuang, qui vit juste à côté de chez elle.
C'est la première fois que j'habite vraiment toute seule. Du coup, j'ai cherché dans le même quartier qu'elle, comme ça on peut se donner un coup de main si besoin.
Tu veux dire que je suis juste là pour t'aider, c'est ça?
Lan a quitté le domicile de ses parents à 27 ans. Ils ne sont pas au courant de sa décision de ne jamais se marier. Cette jeune vidéaste passe son temps entre les bars et les tournages. Une vie qui lui convient bien, loin de toute contingence familiale. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1 et on est en ligne avec Sébastien depuis Pékin. Bonjour Sébastien.
Bonjour Sophie.
Cette explosion du nombre de célibataires, est-ce que c'est un phénomène plutôt récent ?
Oui, en effet, c'est un phénomène relativement récent qui date en fait de moins de 5 à 6 ans. Le nombre de mariages ici a commencé à baisser à partir de 2016. Et dans la foulée, évidemment, la natalité également a baissé. Et ce phénomène du célibat choisi concerne donc surtout des jeunes de 25 à 30 ans. Mais contrairement au Japon, où certains restent chez eux toute la journée, là, ces jeunes célibataires ont une vie sociale, souvent très active d'ailleurs, et beaucoup d'amis. Pour autant, ils ne veulent pas s'engager dans une relation amoureuse qu'ils voient comme étant compliquée a priori. Ce qui a joué aussi, c'est le fait que ces jeunes, des femmes pour la plupart, sont indépendantes financièrement. Elles travaillent et s'installent en ville où l'on respecte plus ce mode de vie que dans les campagnes chinoises qui sont restées toujours traditionnelles.
Alors justement, ce célibat, ça va complètement à l'encontre de la tradition qui veut qu'on se marie avant 30 ans. La pression sociale est toujours très forte en Chine là-dessus.
Oui, complètement. La tradition confucéenne veut que l'on place la famille, un homme, une femme et un enfant au centre de la société. Alors que là, il y a un rapport plus personnel, individualiste et même plus égoïste à la vie. On veut se faire plaisir, être libre, sans aucune contingence familiale. Et tout cela change très vite. On assiste donc à un choc des générations entre des parents et des grands-parents qui veulent que leur enfant, souvent d'ailleurs un enfant unique, il faut le rappeler, cet enfant se marie et surtout et lui-même des enfants. Et ces jeunes célibataires vont à l'encontre de cette tradition. Écoutez, Cynthia Ma, elle est éditrice à Pékin pour German News. Elle travaille d'ailleurs sur ces questions.
Depuis 30 ans, l'économie chinoise se développe très vite, en contradiction souvent avec le mode de vie traditionnel. Et cela peut créer des problèmes dans les familles, quand deux générations ne se comprennent plus. Mais c'est une évolution normale. Et c'est un nouveau mode de vie qui se met en place. Ce sont deux façons de vivre, de toute façon, qui sont tellement différentes entre l'ancienne et la nouvelle génération.
Oui, voilà. Et d'ailleurs, vous le savez, à Pékin, comme dans toute la Chine, signe de ce choc des générations, il existe toujours, aujourd'hui encore, des marchés aux célibataires dans les parcs. Chaque week-end, les parents et les grands-parents font la promotion, en quelque sorte, de leurs enfants et petits-enfants, âge, salaire, appartement ou pas, en quête de l'âme sœur, en fait, pour eux, pour leurs enfants. C'est dire le poids de la famille et la difficulté, parfois, pour ces jeunes de prendre leur envol.
Cette nouvelle génération qui choisit son mode de vie et se marie moins, c'est un énorme défi pour le gouvernement chinois qui essaye de relancer la natalité.
Oui, effectivement, le gouvernement chinois commence à prendre conscience de ce défi démographique. La Chine va être vieille avant d'être riche, c'est-à-dire qu'avant même de devenir un pays développé comme le Japon, l'Europe ou les États-Unis, la Chine va connaître le poids de ce déclin démographique. Depuis 2 ans maintenant, la Chine a mis fin à sa politique de l'enfant unique, mais ça ne marche pas comme l'espérait le gouvernement. Les Chinois ne veulent pas plus d'un enfant, le plus souvent, car ils disent que les études, ça coûte cher, que c'est compliqué de trouver de bonnes écoles, et comme il n'y a pas non plus de maisons de retraite en Chine et que les pensions de retraite sont très faibles, c'est un fardeau tout ça pour les familles. Il faut s'occuper de ses parents, de ses enfants en même temps. Le gouvernement chinois est donc en train de réfléchir à un système d'allocation familiale, comme en France, pour inciter en fait les gens à avoir des enfants.
Voilà, et ça marche plutôt bien en France d'ailleurs. Donc 1 milliard 400 000 habitants et cet appel à faire des bébés en Chine. Merci beaucoup Sébastien pour ce petit focus sur les nouveaux célibataires chinois. À très bientôt.
Merci Sophie, à bientôt.
Et dans quelques instants, on évoque le grand écart de l'Arabie Saoudite, pays qui préside ce week-end le sommet du G20 et qui affiche sa volonté de réforme, mais qui pour autant ne desserre pas l'étau pour bâillonner les défenseurs des droits de l'homme. On va appeler Lina Al-Atloul, la sœur d'une de ces militantes emprisonnées. À tout de suite.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Ce week-end a lieu le sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20, réunion virtuelle, organisée par l'Arabie Saoudite. La thématique retenue en ces temps de pandémie et de risque de dépression mondiale, c'est la protection des vies et le rétablissement de la croissance. Protection des vies, voilà une ambition qui va sembler bien cynique à tous ceux qui ont réclamé le boycott de ce sommet par respect pour les femmes et les hommes emprisonnés en Arabie Saoudite pour leurs opinions. Bonjour Lina Al-Atloul.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous depuis Bruxelles et vous êtes la sœur de Loujain Al-Atloul, militante des droits des femmes de 31 ans, bien connue pour ses combats depuis des années. Votre sœur est en prison depuis mai 2018, 2 ans et demi donc, pour avoir réclamé avec d'autres le droit de conduire en Arabie Saoudite en tant que femme, droit qui a été accordé dans le royaume un mois après son arrestation. Mais pour autant, votre sœur Lou Jaïn reste derrière les barreaux.
Tout à fait. Donc ça va faire bientôt 3 ans que ma sœur est en prison. Et elle n'a toujours pas été jugée. Et donc le régime saoudien, d'un côté, octroie quelques droits, mais d'un autre côté, il veut clairement faire passer un message au peuple saoudien. Tous les droits octroyés doivent être du fait du prince. Et que ceux qui tentent, ceux qui auront le courage de ma sœur pour réclamer plus de droits, seront emprisonnés, torturés. Et quelques personnes, quelques journalistes ont aussi été tués.
Lina, vos parents peuvent visiter parfois votre sœur Lou Jaïn. Quelles sont les dernières nouvelles? Est-ce que vous savez comment elle va?
Alors, on est vraiment super inquiets. La dernière fois que mes parents ont visité Lou Jaïn, c'était le 26 octobre. Et donc, ce jour-là, Lou Jaïn leur a dit qu'elle était épuisée, que maintenant, elle va entamer une grève de la faim pour simplement avoir un contact régulier avec mes parents. Et donc, depuis le 26 octobre, on n'a plus aucune nouvelle. Et donc, on ne sait pas dans quel état et dans quelles conditions elle est.
Et depuis 2 ans et demi, bientôt 3 ans, comme vous dites, elle a été traitée comment?
Il y a eu différentes périodes. Donc, quand elle a été arrêtée au tout début, elle était mise dans une prison qu'elle appelait un hôtel ou dans un palace. Donc c'était en fait un centre de torture. Pendant presque 3 mois et demi, elle a été torturée, elle a été électrocutée, fouettée, battue, abusée sexuellement. Puis après, donc, ils ont autorisé les visites. Mes parents l'ont vue, ont vu son corps, ont vu ses cuisses brûlées à cause de l'électrocution. Et après ça, elle a été mise en isolement pendant des mois. Et maintenant, c'est vraiment une sorte de torture psychologique qui lui font subir en interdisant tout contact avec le monde extérieur, en interdisant les appels et les visites. Ouais. Donc, ils essaient vraiment de briser ma sœur.
Malgré tout ça, il y a un peu plus d'un an, au mois d'août 2019, quand les autorités saoudiennes lui ont proposé de la libérer, mais sous condition, c'est-à-dire en ne disant pas ce qu'elle avait subi, elle a refusé. Elle a un caractère bien trempé, votre sœur.
Tout à fait. Donc en fait, les autorités saoudiennes sont venues et lui ont demandé de nier la torture publiquement à la télé, chose qu'elle a refusée. Et connaissant ma sœur, je pense que la raison pour laquelle elle a refusé, c'est que pour elle, une libération n'a pas de sens si justice n'est pas faite. Donc être simplement libérée pour que les personnes qui l'ont torturée, le régime qui l'a emprisonnée pendant des années sans réelle condamnation... En fait, elle leur donnerait juste plus de pouvoir et elle serait donc une raison pour les autorités de marcher en toute impunité et de continuer à faire ce qu'ils font et de torturer des personnes après elle.
En Arabie Saoudite, Lina, les femmes, les filles, quel que soit leur âge, sont soumises à la tutelle masculine, alors celle d'un père, d'un mari, d'un frère ou même d'un fils. Mais pas vous. Vous, votre père a décidé de vous élever en vous laissant votre liberté de mouvement et d'expression.
Oui, tout à fait. Donc, on est quand même soumise à la tutelle de notre papa, mais on a de la chance d'avoir un père comme le nôtre qui nous donne tous nos droits. Mais encore une fois, le problème est vraiment structurel en Arabie Saoudite. Il est institutionnel et c'est la loi qui est contre les femmes. Et c'est une chose que Lou Jaïn avait comprise et qu'elle a essayé en fait de changer. Elle a toujours dit qu'elle était privilégiée, qu'elle avait de la chance d'avoir des parents ouverts et qu'elle ne voulait pas vivre dans un pays avec ses privilèges alors que ses co-citoyennes n'ont pas les mêmes droits qu'elle parce que la loi est contre les Saoudiennes. Ouais.
Ça veut dire que quand elle a posté des vidéos d'elle en train de conduire alors que ce n'était pas encore autorisé, elle le faisait avec l'accord de votre père?
Tout à fait. Donc la première vidéo d'elle, c'était mon père qui l'avait filmée.
Ah oui.
Et il en rigolait, il disait que dans 10 ans, on allait en rigoler. Ça va bientôt faire 10 ans et ma sœur est emprisonnée pour avoir essayé de conduire.
Vous vous activez pour parler de Lou Jaïn, dénoncer la détention de prisonniers d'opinion. Vous le faites pour elle, vous le faites aussi pour les autres prisonniers d'opinion en Arabie Saoudite. On pense à Rafik Badawi, dont on a souvent parlé ici, ce blogueur emprisonné en 2012. On sait combien il y a de prisonniers politiques comme ça en Arabie Saoudite?
Non, c'est vraiment très difficile d'avoir des informations. Les gens sont arrêtés arbitrairement. Il n'y a pas de registre officiel. Mais de ce que les ONG ont recensé, il y a plus d'une centaine de prisonniers politiques en Arabie Saoudite.
Et vous le disiez, depuis quelques années, Mohamed Ben Salman, le prince héritier qui dirige l'Arabie Saoudite, propose des réformes, il montre des signes d'ouverture. Alors c'est les femmes qui peuvent conduire, l'autorisation de cinéma, d'activités sportives, culturelles. Vous dites, vous, que c'est seulement de la poudre aux yeux et que ça cache vraiment un régime qui n'a rien lâché sur le fond ?
Tout à fait. Toutes les réformes qu'on voit sont simplement pour redorer l'image d'un régime qui torture des féministes, qui tue des journalistes, qui est vraiment un état policier maintenant et qui a besoin d'être légitime, surtout à l'étranger. Et donc pour ça, il organise des événements grandioses pour cacher en fait une réelle répression au sein du pays.
La pression de la communauté internationale, ça peut changer quelque chose ?
C'est la seule chose qui peut nous aider. Nous, on n'a plus aucun contact avec les autorités saoudiennes. Ils nous ignorent, ils ne veulent plus nous parler. Le silence, maintenant, ne fonctionne plus. Il faut absolument, et c'est un devoir moral de la communauté internationale, d'exiger la libération de ma sœur et des réels réformateurs qui ont été emprisonnés pour leur activisme.
Merci beaucoup, Lina Alatloul, fière sœur de Loujain Alatloul. C'est comme ça que vous vous présentez sur votre compte Twitter, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait.
Merci et bonne continuation.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
C'est le moment de faire un petit tour en autistan avec l'ami Joseph Chovanec, philosophe, autiste Asperger et surtout voyageur. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Je rappelle que vous êtes plus ou moins confiné en Belgique. Et ces dernières semaines, grâce à votre super vélo et quelques trains quand même, vous trichez un peu, vous nous avez fait partir à l'aventure autour de vous, jusqu'aux frontières du Benelux. Dans quel périple allez-vous nous embarquer aujourd'hui ?
Mais c'est simple, Sophie. Quand on cherche l'aventure, on voyage, on s'imagine des montagnes. Mais est-ce que vous avez déjà exploré des terrains plats ? Ils sont bien plus rares qu'on ne le croit et il faut voyager. Mes expériences les plus marquantes de terrains intégralement plats ont eu lieu dans certains coins des Pays-Bas, bah, bon, ça ne surprendra oui. pas, mais aussi, surtout, peut-être en Finlande et dans le Pacifique. Et ce qui me frappe dès que je mets les pieds dans ces endroits-là, c'est cet enchevêtrement d'eau, de terre, ces biotopes extrêmement complexes dont on ne peut pas tracer de carte. Hein. Et à ce titre, il faut avoir recours à un mot flamand qui est dédié. Très difficile à traduire. Veiver, hein. Ce n'est pas tout à fait un lac, ce n'est pas tout à fait un marécage, ce n'est pas une simple zone humide.
C'est quoi, un peu tout ça à la fois, c'est ça ?
Ben, c'est un marqueur identitaire. Hein. Ouais. Tout se décline avec Veiver. Alors, le rêve, c'est d'avoir un Veiverhuis. Ça, donc la maison dans le Veiver, hein, a des oreilles flamandes, ça sonne de façon aussi typique qu'un château dans le Périgord pour des Français. Sans oublier, bien entendu, l'incontournable Veiver Fietsroute, hein, la piste cyclable qui permet de traverser le Veiver. Hein. Je me suis émerveillé bien des fois des efforts des promoteurs immobiliers dans des zones sèches et désespérément privées de Veiver. Alors, quel malheur, hein. Ils font tout pour en créer. Hein. Par exemple, dans les quartiers au sud de Maastricht. Mais tout n'est pas qu'une question d'eau. Dans ces espaces, eh bien, il y a des oiseaux à observer.
Ah, c'est ce que vous êtes allé faire cette semaine, je parie.
Ah oui, j'ai passé une journée inoubliable au Svin. Alors, c'est une réserve naturelle à cheval sur la Belgique et les Pays-Bas. Mmh. C'est un endroit impossible à cartographier. On ne sait pas où est l'eau, où est la terre. D'où d'ailleurs le nom de la province, la Zélande, hein, littéralement la mer-terre. Hein. Ce qui coupe le souffle, c'est le nombre d'oiseaux, leur diversité. Je n'ai jamais vécu cela ailleurs, sauf peut-être en Nouvelle-Zélande, de l'autre côté de la terre. Et d'ailleurs, je crois que la similarité entre la faune de la Zélande et celle de la Nouvelle-Zélande a peut-être été à l'origine du mot Nouvelle-Zélande. Dans ces zones plates à oiseaux, il y a des tours d'observation en bois. Vous pouvez voir les oiseaux sans être vu, observer directement ce qui se passe dans un nid de cigogne. En montagne, c'est impossible car les oiseaux, ils sont méfiants, cachent bien leur nid. Hein. Dans les pays plats, construire ces tours, c'est tout un symbole. Hein. Certaines sont particulièrement hautes, de vrais gratte-ciels en bois. Par exemple, en Estonie, en Europe de l'Est. Ouais. Le plus haut sommet du pays, c'est une tour d'observation au lieu dit Sur Munamägi. Quand je m'y étais rendu il y a 2 ans, j'avais eu la surprise de voir le flot de touristes venus des pays voisins encore plus plat et de constater la fierté des Estoniens d'avoir un tel Everest.
Joseph, qu'est-ce qui vous plaît dans la platitude de certains territoires ?
Mais je crois qu'il y a cette sensation profonde, unique que l'on y a. On s'y sent fragile par rapport à, mettons, des collines. on sent que le bout de terre sur lequel on a les pieds pourrait ne plus être là dans quelques semaines, que l'on n'est que de passage. Les bouddhistes parleraient d'impermanence peut-être. Un sentiment envoûtant lorsque vous êtes tout seul au fin fond de la Finlande ou au nord de la Suède, face à cet enchevêtrement d'eau et de terre qui court jusqu'à l'infini. Je crois qu'il faut rattacher à ce sentiment existentiel la grande tristesse résignée qui vous frappe quand vous arrivez dans les îles plates du Pacifique. L'idée que vous n'êtes rien par rapport à l'immensité bleue qui peut vous submerger en un rien de temps. Et il y a un poème classique maori qui dit bien ce sentiment d'éternité. Il faut toujours regarder la longue côte de la mer. Et c'est alors que l'esprit de l'amour rejoint le pays des rêves. Hei hariatu kiraro ringa etete tau e.
Partie des Pays-Bas, nous voilà en pleine rêverie au milieu du Pacifique. Merci beaucoup pour le voyage, Joseph. Et à dimanche prochain.
Merci, à tantôt.
C'est l'heure de refermer les carnets. Merci de nous avoir accompagnés et j'en profite pour vous remercier de votre fidélité. Vous êtes 93 000 de plus en un an à nous suivre en vadrouille chaque dimanche, à écouter le monde changer grâce aux reporters et correspondants d'Europe 1 qui nous ouvrent d'autres horizons. On va donc continuer et inviter vos amis à nous rejoindre. Plus on est de fous, plus on rit. Nicolas Caro m'a rejoint dans les starting blocks pour prendre le relais au micro. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Quel est le programme?
Alors, on part sur une île déserte avec Chabi Molia, qui est cinéaste et écrivain et qui publie un roman sur des naufragés. C'est génial. Et puis, on visitera la bibliothèque de Stéphane Bern.
Ah, rigolo.
Beaucoup d'histoires.
La Voix est libre, c'est dans quelques minutes. Bonne émission. Quant à nous, avec Marc Fréjean qui a réalisé ses carnets et Marion Gauthier qui m'a aidé à les préparer, on vous donne rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.
Europe 1, les carnets du monde.